Bonjour Rachid Temal.
Bonjour.
Y a-t-il, selon vous, trop d'aides sociales en France? C'est la question qui, en ce moment, agite le gouvernement.
C'est maladroit et c'est scandaleux de tenir ces propos-là quand on est un gouvernement de la France. D'abord parce que je pense qu'il faut imaginer ce que doivent ressentir tous nos concitoyens qui, pour des tas de raisons, bénéficient de ces aides-là et qui, pour eux, le quotidien est difficile. Et leur dire qu'aujourd'hui, on va leur prendre, comme l'an dernier, quelques 5, 6, 10, 15, 1 euros sur l'appel ou sur d'autres aides, ça va toucher leur vie au quotidien, c'est scandaleux. D'autant plus que ce gouvernement-là, quand il pointe du doigt les Français qui bénéficient d'aides sociales, oublie de rappeler qu'il fera chaque année, un chèque de 6 milliards d'euros, je dis bien 6 milliards d'euros aux plus riches de nos concitoyens. Donc c'est scandaleux.
Par la modification de l'impôt sur la fortune.
Oui, parce que l'impôt sur la fortune, l'exit tax, chaque année, l'État... Et donc nous allons nous compenser, puisqu'il faudra compenser ce trou-là, nous allons compenser 6 milliards d'euros. Oui. Nicolas Sarkozy avait imaginé le bouclier fiscal, Emmanuel Macron était beaucoup plus loin.
Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a eu cette expression « il y a trop d'aides sociales en France », dit qu'on l'a mal compris. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le dispositif est trop complexe. Est-ce qu'en effet, la complexité du système ne pénalise pas certains ayants droit qui finalement ne bénéficient pas de prestations auxquelles ils pourraient prétendre ?
Il y a deux choses dans votre propos. Le premier, c'est que Gérald Darmanin était très clair. Il estime, et c'est une politique historiquement de droite, j'allais dire banalement de droite, qu'il y a trop d'aides sociales et qu'il faut plutôt mettre l'argent sur les plus riches. Deuxième point, effectivement, il y a aujourd'hui des complexités. On sait que sur le RSA, il y a près de 30% des personnes qui pourraient y avoir droit qui n'y ont pas accès. Donc moi, tout ce qui pourra améliorer le fait que des Français aujourd'hui dans la grande difficulté puissent accéder à ces prestations-là, j'y suis favorable. Mais la question, c'est est-ce que le gouvernement réfléchit à enveloppe constante ? La réponse, c'est oui. Parce que le gouvernement, quand il a donné les 6 milliards par an, la réforme de la taxe d'habitation, 26 milliards, plus donc il faut y ajouter la reprise de la dette de la SNCF, c'est près de 40 milliards qu'il devra trouver chaque année.
Un vademécum, un guide, un aide-mémoire de la laïcité est distribué depuis hier dans tous les établissements scolaires. Le document qui fait 83 pages se penche notamment sur le problème des certificats de complaisance qui sont délivrés à des jeunes filles qui, au nom de leurs convictions religieuses, ne veulent pas participer à des séances de sport comme les cours de natation par exemple. Et le document insiste aussi sur le fait que l'éducation sexuelle fait partie du programme obligatoire. Il existait déjà un guide de la laïcité qui avait été distribué lorsque Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il y avait aujourd'hui besoin, selon vous, de l'actualiser, voire de le renforcer, puisque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, dit que celui-là est plus complet et plus volontariste aussi ?
Monsieur Blanquer est monsieur plus. C'est toujours plus. On va mieux apprendre, on va mieux faire des dictées, on va mieux... À croire que l'école avant monsieur Blanquer n'existait pas. Donc, il y avait une charte de laïcité, effectivement, avec Vincent Peillon, avec Najat Vallaud-Belkacem. Moi, tout ce qui va... renforcer la laïcité dans la société me convient a priori. Et je suis effectivement favorable à ce que tous les élèves aillent en cours d'éducation physique et sportive et que tous les élèves, bien évidemment, suivent les cours d'éducation sexuelle parce que je considère que l'école ne doit pas être un lieu où il y a des influences religieuses, quelles qu'elles soient, doit être au contraire un lieu où l'émancipation individuelle doit être l'objectif premier. Et donc, plus de laïcité, encore une fois, à chaque fois, parler de laïcité me semble aller dans le bon sens. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est l'intention. Après, il va de soi que c'est pas toujours évident à mettre en place par les directeurs d'établissement.
Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils doivent être eux-mêmes accompagnés. Bien, l'idée, mais c'est aussi de regarder pourquoi, dans telles écoles ou telle école, il y a des difficultés à pouvoir enseigner ou faire en sorte que les élèves aillent jusqu'au bout des classes. Donc là-dessus, moi, je suis favorable à ce qu'effectivement, la laïcité soit pas un totem, mais bien une réalité du quotidien dans l'établissement scolaire.
Le procureur de Paris, François Molins, s'est inquiété lundi du danger que représentent les détenus radicalisés qui vont sortir de prison dans les prochains mois. Ils sont, selon lui, une vingtaine en 2018 et une vingtaine également en 2019. Quelles mesures faudrait-il prendre, selon vous, pour se protéger de ce danger ?
Alors là, aujourd'hui, on voit qu'au Sénat, par exemple, nous avons une mission, une commission d'enquête sur la question notamment des retours des djihadistes, en tout cas, suite à l'État et la chute de l'État islamique, Daesh. Et on aborde également ces questions de la radicalité. Donc, il y aura, en tout cas, pour le Sénat, des propositions qui seront faites courant de cet été. Donc, et comme les travaux sont en cours, je préfère pas m'exprimer, puisque c'est une commission d'enquête, mais effectivement, c'est une question qui doit nous alerter. Où on a, d'un côté, le principe du droit élémentaire, qui est, vous faites une faute, vous allez en prison, vous pouvez en sortir ensuite. Mmh. Et l'autre côté, effectivement, des risques qui sont toujours présents. Donc, c'est une question très complexe. Et encore une fois, le Sénat fera des propositions.
Et grave, puisque le procureur de Paris parle d'un risque majeur.
Bien sûr.
Que représentent ces individus dont il dit qu'ils pourraient être pires en sortant de prison, compte tenu du potentiel de sur-radicalisation, en quelque sorte, que représentent les établissements pénitentiaires.
Mais la question de la déradicalisation en France, on en parle beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup à encore en dire.
Pour l'instant, rien n'a marché à cet égard.
Je ne sais pas si ça a marché. Alors après, il faut un peu de recul. Mais ce qui est clair, c'est que tant le suivi que ce qui se passe dans les prisons, et dans les prisons, il y a un débat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les rassembler ou est-ce qu'il faut plutôt les éclater des prisons? Et il y a des tenants et des deux options, et effectivement, c'est un débat que nous avons à trancher et qui est encore devant nous, malheureusement.
L'interdiction du glyphosate n'a pas été inscrite dans le projet de loi alimentation. Le porte-parole du gouvernement assure que la parole du président de la République, qui s'était engagé à ce que ce soit fait dans les 3 prochaines années, sera tenue. Est-ce que vous lui faites confiance?
Monsieur Griveaux est dans une forme d'adoration de son président de la République. C'est son droit. Moi, je pense plutôt que la loi vaut plus que la parole présidentielle. Le président de la République s'était engagé à cette interdiction au bout de 3 ans. La réalité, c'est que son gouvernement, sa majorité, soit ne l'ont pas suivi, soit il y a un double jeu. Donc, moi, je considère encore une fois qu'il s'était engagé. Cet amendement aurait dû être voté, à savoir l'interdiction du glyphosate sous 3 ans, avec bien sûr toutes les limites qu'il faut trouver des options différentes pour soutenir nos agriculteurs, bien évidemment. Mais donc l'engagement pris par le président public, et il y a bien eu un reniement puisqu'il n'a pas été tenu. Et je m'interroge là maintenant sur ce que peut dire, ce que peut penser, au moment où je vous parle, Nicolas Hulot dans son ministère, qui voit bien que quand il s'interrogeait sur pourquoi être ministre, je pense qu'il se la pose d'autant plus fortement maintenant.
Oui, et il a dit qu'il répondrait à cette question dans le courant de l'été.
Si d'autres ne répondent pas pour lui avant.
Ah, c'est une hypothèse que vous envisagez, qu'on lui montre la porte?
Non, je ne sais pas, je regarde, j'écoute.
Ouais. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les avait pourtant validés en février dernier. Ça n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème avec le fonctionnement de cette commission des comptes de campagne?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que les comptes de campagne, la commission épluche bien les comptes de campagne. Oui. Puisque si aujourd'hui il y a des interrogations, c'est sur la base de ces rapports-là.
Mais ils ont été validés, ça a été publié au journal officiel, 13 février.
Il faut maintenant qu'on comprenne exactement, et je pense que c'est au président de la Commission nationale des comptes de campagne de nous expliquer ce qui s'est passé réellement, puisque il y a quelques mois de cela des démissions d'auditeurs. Des comptes, et puis aujourd'hui, des situations post-validation de comptes. Donc là, il faut qu'on puisse nous éclairer.
Le Parti Socialiste n'a pas participé à la journée du 26 mai, la marée humaine. Olivier Faure, aujourd'hui, ne peut pas participer à un défilé sans se faire huer. Est-ce que le PS n'est pas une sorte de parti fantôme aujourd'hui?
Le Parti Socialiste est la première force d'opposition de gauche au Parlement. Au Sénat, nous sommes le deuxième groupe, 78, et nous sommes également importants, beaucoup moins, mais importants quand même, à l'Assemblée. Le Parti Socialiste dirige les collectivités, il fait beaucoup d'actions, c'est un parti d'opposition, et moi j'étais dans la rue le 22 mai.
Le 22 mai.
Oui, moi je vous parle du 22, parce que le 22, la différence, c'est que c'était les syndicats sur le service public, nous y étions. Sur le 26, c'est un mouvement politique qui ne rassemblait pas la gauche. Nous sommes sur le rassemblement des forces syndicales, et donc nous soutenons, où sont des forces de gauche.
Merci Rachid Temal. Bonne journée.
Merci.